Rico.
2096. Je précise, il vaut mieux parler tant qu'il court que ce que je relate dans cet enregistrement audio est mon expérience personnelle, mon expérimentation de la médecine traditionnelle amazonienne et des entéogènes s'est toujours déroulée dans des pays où c'est autorisé. Je ne fais ni prosélytisme ni promotion des médecines alternatives. Je ne fais que partager mon vécu et raconter mon histoire. Précision faite, chères auditrices et auditeurs, bonjour, bonsoir, bon dimanche. Dans cette petite série sur les entéogènes, on va commencer avec cet épisode à rentrer dans le dur, puisqu'on va parler d'expérience directe, la mienne. Il est temps que je vous relate mon aventure péruvienne, celle qui m'a mené dans la forêt amazonienne pour une retraite après une purge au tabac et une cérémonie d'ayahuasca. Une retraite pendant laquelle j'ai diété la rosacha et l'albaca, plantes très usitées dans la médecine traditionnelle amazonienne. Chaque jour, matin, midi, soir, une petite décoction de plantes. Mais je vous parlerai du protocole en détail un peu plus loin dans ce podcast. D'abord, je vais vous dire d'où je parle. Les backstage, le background, le cheminement. Je pense que pour comprendre ce qui m'a conduit à expérimenter les entéogènes et particulièrement l'ayahuasca, je dois vous parler de l'itinéraire de vie qui m'a mené jusque-là. Depuis mon entrée dans l'âge adulte, je suis en chemin vers moi-même. Enfance plutôt heureuse, même si on trouvera toujours à redire, qui d'ailleurs a prétendu que la vie devait être heureuse, la vie est, c'est tout, de crise en période faste, de moments de doute en moments de grâce, de souffrance en plaisir qui parfois se confondent, de grandes joies en grande tristesse, la vie est en mouvement, l'existence est cyclique et il n'y a pas de repos possible, peut-être même pas dans la mort. Le repos, c'est le néant ou alors le tout. C'est comme on veut. À partir du moment où l'un donne naissance au deux, quand la dualité émerge du tout, union en désunion, la matière nous sépare les uns des autres. Il paraît que la matière est une illusion, mais sur notre plan terrestre, nous existons dans un espace de paradoxe et cet espace de paradoxe donne le mouvement au vivant. La nature a réussi cette chose absolument extraordinaire de créer de l'harmonie et de la beauté à partir du conflit. Au contraire, chez l'humain, c'est un peu différent. Il ne sait pas harmoniser les contraires, ou il sait le faire, mais très rarement. Parce que le paradoxe, ça frotte, ça pique, puis ça fusionne à nouveau, puis se dissocie encore et ça recommence à l'infini. Et pour l'homme et la femme et l'homme, eh bien c'est compliqué. Et ce paradoxe pose problème. L'homme peut avoir tendance à créer du malheur et de la laideur. L'être humain voit le monde en noir et blanc, souvent. Dans les contraires, l'être humain prend parti, il pose un jugement. Un jugement de valeur, et quand le jugement de valeur est posé, le processus du vivant s'interrompt. Et voilà, c'est le difficile cheminement de l'être humain dans la matière. La vie est intranquille, c'est en cela que le bonheur est un mythe. Le bonheur est plus sûrement l'acceptation de ce qui est à chaque instant. Mais je digresse, pardonnez-moi. Enfance plutôt heureuse, donc, je disais, même si en décalage constant avec mon environnement, une grosse sensibilité qui a du mal à s'accommoder du superflu, du quotidien, du banal, une force et une faiblesse aussi. Très tôt, ébahi par l'incommensurable, par l'invisible, évidemment, les questionnements affluent. Et puis l'adolescence se pointe, les questionnements, j'y réponds par la fuite. Et par la fête, pas très envie de devenir adulte. Mais le temps nous rattrape tous, mesdames, messieurs. À quel âge est-on adulte? On va dire, 21 ans pour moi. Premier désappointement amoureux, premier gros choc émotionnel suivi d'une mini-dépression, grosse fatigue psychique qui m'a conduit à mes premières interrogations sur la nature de la souffrance que je vivais et à mes premières prises de conscience. L'intensité de ma douleur dépend-elle de mon positionnement, de mon regard sur les événements? Suis-je responsable de ce qui m'arrive? Est-ce que je me place inconsciemment dans des situations qui me confortent dans l'image que j'ai de moi-même, etc., etc. Bref, tout ça à l'époque, ça émerge doucement. Et à partir de là, eh bien, je décide d'arpenter le chemin. Chemin qui, comme dit plus avant, n'a pas d'autre but que lui-même. L'important, c'est pas la destination, mais le voyage. Il paraît que c'est Lao Tzu qui a dit ça. C'est un gros cliché, mais rien n'est plus juste. Nous sommes ici pour l'expérience. On y revient, le 1 fait l'expérience de la dualité à travers la matière et donc à travers nous. Donc j'arpente le chemin, tout doux au début, plutôt du côté spirituel d'ailleurs, lecture en développement personnel, ça m'intéresse beaucoup, psychothérapie, médecine énergétique, ésotérisme, méditation, j'expérimente pour me soigner un peu, mais beaucoup par curiosité. Et puis le temps passe, vers 30 ans, je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie de construire. Cette personne est en psychanalyse. Et l'idée fait son chemin en moi. Depuis longtemps, j'ai envie de régler les problématiques relationnelles que j'éprouve dans certaines situations, avec certains profils de personnes. Je suis pas toujours à l'aise avec tout le monde, voire même parfois angoissé. Ma sensibilité me donne accès à ce qui se dissimule au-delà du simple dialogue. J'ai du mal à gérer ça. Comme l'impression de percevoir plus que ce qui est dit, et ça me déstabilise beaucoup. Alors vas-y, pour la psychanalyse, on va peut-être pouvoir régler ce problème. Et je pars donc pour de longues années, avec une psychanalyste lacanienne, 2 séances par semaine, 45 €, je crois qu'au bout de 10 ans, elle a eu sa piscine. J'apprends pas mal sur moi pendant cette période, je travaille mon mental, je cerne des fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques mis en place par mon système. Je comprends surtout que chacun d'entre nous se construit une organisation psychique et personnelle singulière, et cela dès nos premières interactions humaines, dès la petite enfance. Un édifice plus ou moins stable, fait de croyances et de mécanismes de pensée, un édifice qu'on nommera « ego » ou « petit moi » ou « personnalité » ou « je » ou « mental » ou « identité psychique ». Bref, la résultante de la somme de nos pensées depuis notre naissance, reliées entre elles par l'expérience, l'ego, quoi. Je comprends qu'on ne peut pas progresser sans prendre conscience de tout ça. Pour accéder à plus de sérénité, il faut reconnaître nos déterminismes, nos mécanismes psychiques. Il faut prendre de la distance avec notre petit moi. Et cette conscientisation se réalise lentement. Au cours de mon analyse, je passe par des phases compliquées. Ce travail avec ma psy me conduit certainement à la dépression, ou plus sûrement, il éclaire certaines parts d'ombre que je ne voulais pas voir jusqu'ici, et ça devient difficile. En réponse à cela, je reviens à une conception du monde très matérialiste. Je me déconnecte de mon ressenti pour faire un travail mental qui m'éloigne beaucoup de la métaphysique, de l'ésotérisme, du développement personnel et de tous mes centres d'intérêt de jeunesse. J'en deviendrai presque zététicien. Je n'envisage notre réalité que comme objective et matérielle. Je suis plutôt épanoui dans mon couple, nous avons une fille, mon activité professionnelle a du sens, mais je suis en dépression. D'un côté, j'ai des compréhensions, je commence à bien analyser mes comportements et ma psyché. De l'autre, j'ai coupé avec ma part sensible, et je crois que je m'en rends compte à moitié. L'approche psychanalytique est limitée, je veux aller plus loin, mais la psychanalyse m'enferme dans un paradigme psychologique difficile à dépasser à ce moment-là. Je reste très cartésien. En dépression, donc. La dépression, en tout cas la mienne, c'est ouvrir les yeux chaque matin, avoir 30 secondes de calme, le temps de comprendre qu'on est réveillé, puis comme la veille, replonger dans l'angoisse pour la journée sans répit. La dépression, la mienne, c'est s'identifier aux pensées compulsives qui nous traversent chaque seconde, le mental qui pédale sans discontinuer au fond d'une fosse à purin. J'ai visité les profondeurs, des endroits terrifiants dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Pourtant, objectivement, je n'ai pas de raison d'en être là, hein. En surface, tout va bien. Mais ça dure un peu, ça dure beaucoup même. Et puis ce qui devait arriver arrive, ma compagne me quitte, je ne m'y attendais pas vraiment. À ce moment, avec ce pilier qui s'effondre, je pense que je ne pourrais pas me relever. En fait, je ne pense même pas, je vacille. Mais ça ne dure pas. Étonnamment, ça ne dure pas, il y a une petite voix en moi qui me dit « T'inquiète, ça va bien se passer ». C'était la voix de Gérald Darmanin. Non, c'était une voix bienveillante. Et alors, étonnamment, après l'orage de l'annonce, le calme revient. Instinct de survie peut-être. Je ne comprends pas pourquoi, mais je ne m'écroule pas. C'est à cette période que je tombe sur le best-seller d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ce livre a peut-être sauvé ma vie. En tout cas, il est le tremplin du rebond, le starter qui remet le moteur en marche. Alors on poursuit donc, séparation en cours, je reviens petit à petit à moi par une voie qu'on peut qualifier de spirituelle à nouveau, en suivant les conseils Descartes, observer mes pensées, ne pas les juger, ne jamais croire tout ce que l'on pense, projeter le moins possible et regarder derrière seulement quand c'est utile. Bon, c'est un résumé assez simpliste, il faut que vous lisiez ce livre. Petit à petit, je comprends que mon mental joue contre moi, que je ne dois pas croire chacune de mes pensées. Doucement, je remonte, je retrouve l'équilibre, je stoppe ma psychanalyse. 10 ans, on va dire que c'est assez, même si elle m'a apporté beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour. Et alors je me pose, je reconstruis, je fais beaucoup de musique, je sors un disque, mais ouais, un deuxième, avec un single qui s'intitule « Compulsive Thoughts », « Pensées compulsives ». Et d'ailleurs, ce titre est disponible en écoute sur toutes les plateformes. Vous tapez « Ride the Tiger »,« Compulsive Thoughts » et vous allez pouvoir l'écouter. Donc, je sors ce disque, je ne fais plus d'angoisse. Mes pensées récurrentes, mes problématiques demeurent, mais elles sont à distance. Je les perçois avec beaucoup de recul. Je ne m'identifie plus à elle et elle perd en intensité. Je sors finalement sans vraiment m'en rendre compte de la dépression. Et je sais que je n'y retournerai pas. Je ne me laisserai plus happer par ma noirceur. Je vais rester très 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 vigilant. Le temps passe. Je suis pas malheureux. Mais je suis pas heureux non plus. Je crois que mon perfectionnisme m'empêche de vivre pleinement les moments. Il me manque toujours quelque chose, toujours un truc qui fait que ça n'est pas parfait. Mais je me connais et je fais avec. Quand même, reste que j'ai la sensation que dans ma remontée depuis les profondeurs, j'ai oublié quelque chose. Une peur, une tristesse, une blessure. Rester là-bas, dans le noir et le froid, un enfant perdu qui flippe sa mère tout seul et qui crie par moments si fort qu'il me transperce le cœur. plus fort qu'avant, ça c'est sûr, je suis plus ancré, j'ai retrouvé un équilibre émotionnel et psychologique relativement stable. Alors, je lui dis que je vais revenir le chercher, je parle à l'enfant, hein. Mais pas tout de suite. Là, je vais profiter un peu, je vais me poser, ça va, je suis tranquille, donc je reviens, promis, je reviens, je t'oublie pas. Donc voilà, une partie de moi vit assez bien au quotidien, je suis sorti des angoisses, je vaque à mes occupations personnelles et créatives qui me nourrissent et participent de ce nouvel équilibre dans ma vie pro et perso, sans ma femme, mais avec ma fille. Mais par moments, je l'entends crier cet enfant et je ressens la douleur physiquement, dans mon corps, comme un poignard planté là dans le dos au niveau du cœur. Ma vie va pas mal. Mais mon corps me rappelle chaque jour qu'il y a une blessure qui n'a pas cicatrisé. C'est peut-être un problème physique d'ailleurs, une maladie. L'hypocondrie étant un de mes péchés mignons, je m'inquiète, je fais le tour des médecins. On ne trouve rien, donc bon, voilà, rassuré, mais pas plus que ça. Cette blessure, je peux l'identifier, peut-être même lui trouver une origine dans mon enfance, ou plusieurs, mais... je n'arrive pas à lui faire face, à la rencontrer avec le cœur. Ma relation avec cet enfant perdu reste mentale. Il y a un gardien implacable qui détient la clé de la forteresse dans laquelle l'enfant est enfermé. Ce gardien, je le connais, je l'ai déjà vu en rêve éveillé également. Il ressemble à un samouraï avec une armure et un katana. J'ai tout essayé pour le faire flancher, l'amadouer, afin qu'il m'ouvre la porte. J'ai fait thérapie des états du moi, EMDR, sonothérapie, IFS, méditation. Mais il est puissant, le bougre, il est déterminé, il est irréductible et il se tient là, entre l'enfant et moi. Et cela dure depuis 13 ans maintenant, 13 ans que... je continue mes recherches, que je creuse, que je tente de négocier avec Miyamoto. Miyamoto, c'est son nom. C'est son nom au samouraï, mais pas moyen. On l'a dit, c'est le chemin qui est important. En revanche, ben, physiquement, c'est dur. J'ai une épée plantée dans le dos au quotidien. Et la blessure se transforme en douleur chronique, en lumbago, hernie discale, migraine, courbature. Rares sont les jours où mon corps ne me rappelle pas qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Enfin, c'est ce que je crois, hein, c'est mon impression. Peut-être qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien à régler. Et que c'est le fait de croire que je souffre physiquement qui m'empêche d'avancer alors que tout va bien. C'est ce que les médecins m'ont dit d'ailleurs, hein. C'est dans la tête, monsieur. Donc voilà, je ne peux pas vraiment leur donner tort, mais je ne crois pas trop à ça. Cette douleur physique, elle est présente et elle devient un peu mon moteur. Chaque jour, elle m'incite à me connecter à moi-même, à poursuivre mon cheminement pour peut-être guérir. J'ai la croyance que nos maux physiques et spirituels ont une correspondance physique et vice-versa, alors tant que j'ai mal, c'est que j'ai encore du travail. Mais ce que je comprends pas, c'est que certains ont beaucoup de travail, mais n'ont pas mal. Ça se vérifie pas dans le corps. Et vice-versa. Bon, bref. Équilibre étrange. Le temps passe, pourtant, je me sens de plus en plus fort. Paradoxalement. Je me sens équilibré dans la tête, mais le corps, lui, est épuisé. Et je retourne chez mon médecin de temps en temps. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu, mais rien, toujours. C'est vraiment bizarre comme sensation. Je me dis parfois que si mon corps était à 100%, mais je serais inarrêtable. Car j'ai récupéré beaucoup de pouvoir depuis la fin de ma dépression. Et puis, il y a 2 ans environ, je co-anime un podcast sur la mort avec un ami. Podcast qui s'intitule Terminus, on rencontre des personnes qui, de par leur expérience de vie, leur situation professionnelle, côtoient la mort, des gens qui réfléchissent au sujet aussi. Et nous recevons dans un des enregistrements Marie-Odile Riffard qui a coécrit un livre avec Olivier Chambon, La vie après la mort. On évoque les EMI, les expériences de mort imminente, les sorties de corps et les entéogènes. Et ça m'interpelle. J'avais essayé dans ma jeunesse festive les champignons et puis l'ecstasy, souvenir mitigé avec l'ecstasy, mais là je découvre une approche thérapeutique et spirituelle de l'expérimentation de ces substances et voilà, ça me questionne. Quelques temps après, je décide de créer Calreco. Je recontacte Marie-Odile Riffard qui me met en lien avec Olivier Chambon, médecin psychiatre connu pour son expertise des thérapies faisant appel aux psychédéliques, et je vais l'interviewer. C'est là que je me dis que les psychédéliques ou entéogènes pourraient être pour moi une solution, et donc, c'est parti. Je commence par expérimenter le LSD. Peut-être que je raconterai ici plus en détail cette expérience, mais à mon sens, c'est la découverte de la médecine traditionnelle amazonienne, des plantes maîtresses et notamment de l'ayahuasca qui est plus évocatrice pour moi de la puissance du travail avec les entéogènes. Alors on y est, ça y est, je pars, seul, pour un mois au Pérou. On est le 1er novembre 2023. J'ai bien préparé mon voyage. Enfin, quand je dis préparé, j'ai mon billet d'avion aller-retour et ma réservation au centre Takiwazi où je vais faire ma retraite. Pour le reste, je vais improviser. Je sais juste que je dois être à Tarapoto le 6 novembre et j'ai décidé de m'y rendre en bus depuis Lima en passant par Chachapoyas. Voilà, c'est mon projet. Alors Chachapoyas, c'est une petite ville à 2500 mètres d'altitude environ qui est à peu près sur la route entre Lima et Tarapoto et qui a l'air sympa. Donc je me dis, tiens, voilà, on va s'arrêter là-bas. C'est un peu au hasard que je prends cette décision. Je vais m'y arrêter pour 3 ou 4 nuits. L'idée, c'est ensuite de faire ma retraite à Tarapoto, donc qui va se terminer environ le 18 novembre, de me poser 2, 3, 4 jours là-bas, et puis de profiter des 10 jours qu'il me restera pour visiter le Pérou, donc entre le 20 et le 30 novembre à peu près, 30 novembre, jour de mon départ. Voilà le projet, l'avion est blindé, une mamie péruvienne à ma droite et une jeune femme à ma gauche. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué l'espagnol depuis le lycée, en fait. J'étais pas très doué en espagnol. Enfin, voilà, j'ai pas trop suivi les cours, en fait. Je suis pas très à l'aise pour converser. Je suis un peu claustro, en plus. Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion. J'aime pas ça. La promiscuité, les 12 heures de vol à venir. En plus, c'est jour de migraine. J'ai mal à la tête. Bref, ça démarre doucement. Mais ça se passe. Je réussis à dormir un peu, et puis finalement, on arrive assez vite à Lima. Et là, excitation, joie, je ne connais pas le Pérou et j'adore les premières fois. Je descends de l'avion, je fais ce qu'il y a à faire et je décide de ne pas m'arrêter à Lima. Je vais partir directement pour Chachapoyas en bus. Il est environ 9h du matin, mon bus est à 14h. Bon, j'ai choisi une compagnie sérieuse, c'est le routard qui le dit, les bus sont apparemment hyper confortables, ça va me coûter 170 soles, environ 40 euros. Bon, il y a 23 heures de trajet, mais voilà, je vais enchaîner après l'avion, ça me va bien, je veux voir la route défiler, de toute façon, je veux voir du paysage, et c'est très bien comme ça. Il est 12 heures. Maintenant, midi, quoi. J'appelle un taxi. J'essaie de prendre un peu d'avance pour être sûr de ne pas rater mon bus. On ne sait jamais. Puis là, je viens d'arriver, donc je prends mes marques. Sorti de l'aéroport, donc, sur le trajet vers la gare routière. Mon chauffeur, apparemment, aime le rock des 90s. Midnight Oil dans le poste. Découverte de la ville. Enfin, découverte du Lima populaire. Parce qu'il y a des quartiers riches, dont certains ressemblent beaucoup à ceux des grandes villes occidentales, mais là, on traverse Lima pauvre, poussiéreux, bruyant, vivant, brumeux, ça grouille, ça foisonne, ça klaxonne. Et j'aime bien ça. Cette pagaille me donne un sentiment de liberté. Pas besoin d'être juriste pour s'apercevoir qu'ici, la débrouille, c'est la règle. Et ça nous change de nos sociétés cadenassées, numérisées, bien propres sur elles, à l'image de leurs dirigeants sans âme. Là, il y a de la vie. J'arrive donc à la gare routière. Ce qui est génial dans les voyages, c'est que tout est découverte. Chaque instant est une première fois. Notre mental n'a pas eu le temps d'analyser, de classer, d'étiqueter, acheter un billet de bus, manger un sandwich au pollo à la cantine de la gare, même pas très bon, bah c'est merveilleux. C'est du pur instant présent. Voilà, je monte dans le bus, il est arrivé assez vite. Le routard n'a pas menti, siège inclinable presque à 180 degrés, super confortable, juste ce qu'il faut de clim. Et on part, on traverse Lima. J'ai le nez collé à la vitre. Et puis, au bout d'une heure ou deux, nous sortons de la ville, du sable à perte de vue et au loin, le Pacifique. Il est 18h, j'ai de la chance, le soleil va se coucher sur l'océan que nous longeons. Petite pause restauration. Chaque passager va s'asseoir à sa table. Le patron nous attendait. Il doit y avoir des arrangements entre la compagnie de bus et les lieux de halte. À moins que ce soit des arrangements entre les chauffeurs et les restos. Bref, je sais pas trop. Mais en tout cas, un petit repas à 10 soles, soit 2,50 €. Alors moi, je prends du pollo, hein, du poulet. C'est le seul truc que j'ai identifié. Donc, voilà. Je prends pas trop de risques. Il y a des spécialités comme les ceviches. Qu'il faut absolument goûter, paraît-il, mais là, il n'y en a pas. Donc, vas-y pour une soupe de pollo avec du riz. Ça y est, il fait nuit, il fait doux, et des vendeuses à la sauvette me proposent des chips de patates douces, alors je prends, et puis nous repartons. Nous traçons en bord de mer jusqu'à Chimboté, ensuite nous bifurquerons à l'est vers la Cordillère Blanche. Il fait nuit, je m'assoupis, je m'endors, je crois. Ça y est, il fait jour. Le soleil est levé. J'ai dormi donc, plutôt pas mal. Et les paysages ont complètement changé. Petite et moyenne montagne, végétation luxuriante, jungle, route de terre battue avec des trous partout. C'est d'ailleurs ça qui m'a réveillé, un nid de poule. Enfin, c'était plutôt un nid de condor, je pense, vu la profondeur du truc. Le bus a de bonnes suspensions, mais ça secoue quand même un peu. Et on s'arrête à nouveau, c'est l'heure du petit-déj, c'est rustique, c'est tranquille, c'est beau, c'est calme, c'est sommaire, c'est charmant, des paysans souriants, des chiens en liberté, il est 6h, et il y a déjà pas mal de monde dehors. Et puis donc nous repartons, je passe les heures dans mon bus entre endormissement et nez à la vitre pour observer cette magnifique campagne. Et le temps passe vite. Et puis, nous traversons quelques villes. Et finalement, les paysages changent encore. La végétation se fait plus rare. Le soleil a disparu sous la brume. Et nous arrivons, au bout de 23 heures, à Chachapoyas. 2400 mètres d'altitude. La ville des hommes nuages. Petit instant culturel. Dénommé ainsi par les Incas, leur territoire, au Chachapoyas, donc se situait dans les montagnes qui surplombent les forêts tropicales et leur perpétuel brouillard. De ce peuple mystérieux que sont les Chachapoyas, certains disent qu'ils étaient des hommes blancs, tiens, aux yeux clairs, ok, aux cheveux roux ou blonds, et de haute taille. Cette similitude avec des peuples européens a décidé Hans Gifhorn, célèbre archéologue allemand, à effectuer des analyses génétiques sur les descendants des Chachapoyas, et celles-ci ont révélé qu'ils auraient des gènes similaires à ceux des habitants de Carthage, en Afrique du Nord. Donc, ainsi circule l'idée parmi un certain nombre d'archéologues que les peuples de l'Antiquité auraient découvert le continent américain, bien avant Christophe Colomb. Cette hypothèse est controversée, évidemment, et ne fait pas l'unanimité chez les archéologues, blablabla. Les Chachapoyas ne descendaient jamais dans les basses terres, car ils croyaient que les démons y habitaient. Ils adoraient le condor et évoquaient la constellation du lion pour qu'elle les protège des animaux sauvages. Ils adoraient également une étoile, Chukinkinse, où leur dieu habitait. Tout comme de nombreuses civilisations antiques, égyptiens, sumériens, dogons, mayas. C'est fou, petite parenthèse là, c'est fou cette relation au cosmos. C'est assez étonnant, c'est presque bouleversant. Les Chachapoyas, finalement, ont disparu de la surface de la Terre quelques décennies après l'arrivée des Espagnols. Ils nous ont laissé de nombreux monuments, dont le plus emblématique est certainement la forteresse de Quelap, que je n'ai pas eu le temps de visiter. Apparemment, c'est une véritable prouesse architecturale perchée à plus de 3000 mètres. Selon certains archéologues, cette enceinte est composée de trois fois plus de pierres que la pyramide de Khéops et sa construction est tout aussi mystérieuse. D'où provient une telle quantité de pierres? Comment ont-elles été amenées? Bref, vous connaissez l'histoire, hein, si vous suivez un peu l'archéologie alternative. Mais l'isolement de cette civilisation oubliée a permis quand même aux archéologues de découvrir en 2013 des dizaines de sarcophages extrêmement bien conservés et un nouveau mystère surgit, ces sarcophages construits en argile et en bois, de structure ronde, agrémentée chacun d'une tête humaine disproportionnée, ressemblent étrangement aux Moai, les mythiques statues de l'île de Pâques. Alors moi j'ai ramené une petite statuette, voilà, je l'ai mis sur mon autel, hein, ce petit sarcophage très mignon. Le mystère et la poésie sont partout au Pérou. Il y a dans ce pays une connexion des âmes aux profondeurs et au monde subtil, il y a de la magie. Ce mystère autour de ces anciennes civilisations dont les vestiges pullulent sur ces terres. Pas étonnant que ma quête de sens et de spiritualité me mène ici. Pour qui s'intéresse à l'archéologie alternative, c'est mon cas, le Pérou est une terre inspirante. Il y a dans l'histoire et l'archéologie, comme dans toute discipline, une face ésotérique, une face cachée à laquelle on peut avoir accès hors de tout rationalisme, grâce au langage de l'invisible, le symbolisme. Dans ce pays, le voile entre les mondes invisibles et le nôtre est bien plus ténu, car il reste encore ici des peuples animistes et le capitalisme rationaliste, consumériste, technocratique n'a pas encore totalement fait son œuvre. Cette figure de l'homme rationaliste d'ailleurs reste et depuis toujours problématique pour moi, parce que cette figure partage des ressemblances troublantes avec celle du colon occidental, anglais, français, espagnol, coupable d'un génocide humain et culturel en Amérique. C'est le rationalisme portant le masque de la religion catholique qui a détruit toute possibilité de recueillir les riches enseignements que ces civilisations auraient pu nous transmettre à travers leur culture. Ça me perturbe à chaque fois que j'en parle. Ça me touche en fait. Ça me met même en colère. Et je vois dans ces archétypes colonialistes les visages de Macron, de Trudeau, de Biden, celles des fact-checkers, des scientistes et porteurs de vérité, symboles de l'inconscience humaine. Nous portons le poids de nos infamies, traumatismes reproductibles à l'envi, traumatismes transgénérationnels liés à la tyrannie de nos ancêtres. Nous sommes assis sur des génocides, nous sommes construits dessus. Nous pouvons bien lutter contre les dominations, MeToo, le féminisme, l'antiracisme, les gilets jaunes. Nous traînons le boulet de l'oppression sur ces peuples animistes et sur la nature. Nous n'avancerons pas sans demander pardon à tout le monde et ensuite à nous-mêmes. Encore faudrait-il avoir les cartes pour comprendre les mondes qui nous entourent et notre nature profonde. Inconscients, nous battons avec nos armes, effrayés par la mort, nous tentons chaque jour un baroud d'honneur désespéré pour éloigner la finitude qui nous terrifie, nous, occidentaux. Certains d'entre nous ont bien l'intuition qu'il y a plus grand, mais nous sommes rattrapés par l'illusion matérialiste, l'illusion de la séparation. Notre vision dualiste nous isole, il nous faut nous reconnecter à notre nature profonde pour échapper au consensus mental humain duquel peu de personnes peuvent s'extraire pour apercevoir la multitude autour. Même ceux qui ont l'intuition doutent. Et ça nous ralentit dans notre compréhension du monde. Mais pour certains, il y a l'expérience entéogène, par exemple, ou l'illumination, ou les EMI, qui viennent apporter parfois confirmation à l'intuition. Une confirmation si profonde qu'elle nous autorise à courageusement affirmer notre spiritualité. C'est ce que je suis venu chercher ici, une confirmation. Le projet de Calreco, c'est d'échanger avec tout le monde, et notamment avec les rationalistes. Au départ, c'est ça l'idée. Je ne sais pas encore si je vais poursuivre sur cette voie, tenter de convaincre, dialoguer avec les matérialistes, c'est peut-être une perte de temps. Utiliser mon énergie pour aller explorer ce qui m'appelle, sans tenter de convaincre ceux qui y sont hermétiques, c'est peut-être le chemin à suivre, je ne sais pas, on verra. Pour la saison 3. Revenons à Chachapoyas, donc, où je n'ai fait que flâner. En voyage, moi j'aime marcher dans les villes, j'aime observer les gens, d'autant qu'ici c'est très calme, les mototaxis, enfin les tuk-tuks sont interdits. En voyage, moi j'aime fréquenter les lieux populaires aussi, les marchés par exemple. Je ne suis pas allé dans les agences touristiques, alors ça peut être super bien hein, pour visiter des lieux emblématiques, mais moi j'ai préféré respirer l'atmosphère de cette ville, les rues périphériques, le marché donc, et puis m'asseoir sur un banc, sur la place d'armes, les petits restos. Voilà. Le dimanche matin, je suis passé devant une église, et le Pérou est très religieux, l'église était bondée, et la porte était ouverte, je rentre, j'écoute, et je vois. C'était très beau. Nous sommes lundi 6 novembre, 9h. Bon, j'ai trouvé un bus. On n'est pas sur du bus grand luxe comme pour le voyage entre Lima et Chachapoyas. Là, c'est plutôt type combi, bagages entassés sur le toit et voyageurs entassés sur les sièges. J'avais déjà vécu ça au Cambodge, les minibus bondés et inconfortables. Bon, bah là, c'est reparti. On a 8 heures de trajet. Je pense que ça va être sportif. Bon, c'est pas super confort comme prévu, hein, mais c'est joyeux. Et puis, ça arrive finalement très vite. Il est 17h et je suis enfin à Tarapoto. Un pilote de tuk-tuk me saute dessus. Un pilote, oui, parce qu'ici, ces gars sont des vrais pilotes. Et puis je dis ok, allez, on y va. Donc c'est parti pour Los Swingos, l'hôtel lodge dans lequel je vais séjourner quand je ne serai pas en forêt. Le soleil se couche, j'hume l'air de la ville bruyante de Tarapoto à l'arrière de la moto-taxi. J'appelle ma fille, je lui dis que je suis arrivé, je suis tout excité, je suis heureux. Voilà, j'arrive à Los Swingos. Je rencontre German, le jeune propriétaire des lieux, qui m'accueille et qui me donne les clés de mon bungalow planté au milieu des manguiers. Demain, j'ai rendez-vous à Takiwazi. Ma chambre est top, une bonne douche. Je me pose dans le hamac et j'écoute les bruits de la forêt. Car ici, c'est le début de la selva, l'Amazonie. J'entends la rivière au loin. Je me réveille tôt, 5-6 heures. Ça va être comme ça tout au long du séjour. Je me rends au centre dans la matinée vers 9h, je crois. J'ai rendez-vous avec Fabienne, qui est une curandera, une guérisseuse, une chamane si vous préférez, et elle est aussi psychologue. Fabienne est française et elle travaille ici, à Takiwazi, depuis 20 ans. Vous aurez le plaisir de l'entendre dans un entretien que j'ai réalisé sur place avec elle et qui fera l'objet d'un épisode ultérieur. Donc on échange un moment, je lui parle plus en détail de mes problématiques et de ce que je pense être venu chercher ici. Et puis, à l'issue de notre entretien, elle me dit que ça serait pas mal de voir Jacques Mabi, qui est docteur en médecine. Il est arrivé au Pérou en 1980 comme chef de mission de Médecins Sans Frontières. À l'époque, il est en contact très vite avec les médecines traditionnelles andines. Il devient curandero, maestro, après des années de travail auprès de plusieurs guérisseurs. Et il fonde en 1992, avec son épouse, le médecin péruvien Rosa Kiofe, le centre Takiwazi. Vous en saurez plus d'ailleurs en écoutant l'entretien que j'ai réalisé avec Jacques et qui sortira sur Calreco, pareil, dans les prochaines semaines. Donc je traverse le couloir et je me rends dans le bureau de Jacques. Alors autant vous dire tout de suite, vous imaginez qu'on est bien loin d'un examen classique de médecine allopathique. C'est avec le tabac que Jacques travaille. Il est d'ailleurs aujourd'hui plus sûrement tabaquero qu'ayahuasquero, puisqu'à ma connaissance, il n'officie plus dans les cérémonies d'ayahuasca. Donc comment vous dire ? D'abord, le tabac, c'est une plante considérée depuis toujours comme sacrée dans toutes les Amériques. En Amazonie, tous les guérisseurs fument. Donc, pas facile de vous raconter ce moment dans le bureau de Jacques. J'ai envie de vous dire que si vous voulez savoir comment se déroule un soin, le mieux, c'est de vivre vous-même cette rencontre avec la médecine amazonienne. En quelques mots, il y a du rituel, de la fumée, du mystère et de la bienveillance. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je ressors un peu perplexe, étonné non pas par la pratique, mais par ce qui m'a été dit. Je pensais venir pour une problématique précise, celle que j'ai évoquée plus avant, qui concerne mon enfant perdu, vous savez, celui qui crie dans le noir, enfant qui, à l'âge de ma fille d'ailleurs, tiens, ce poignard-là dans le dos, cette blessure qui muse au quotidien. Il semble donc, à la suite de cet entretien avec Jacques, que ce problème ne soit pas la priorité. Jacques m'a dit que le physique était OK. Bon, c'est bien, je suis rassuré. Mais que je devais être victime de sorcellerie. Alors attention, je vous vois venir, on passe un cran dans l'étonnement. Oui. Ces observations et pratiques sont si peu courantes, ou tout du moins si peu révélées dans nos sociétés occidentales, qu'on a quand même un peu de mal à considérer la magie ou la sorcellerie comme une réalité tangible. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Jacques. Je veux bien croire qu'ici, au Pérou, on jette des sorts par les fenêtres, mais ça me semble moins courant en Europe. Eh ben, c'est pas si sûr. Et à ce moment-là, je ne suis peut-être pas encore prêt à entrevoir cette réalité. Je vous le dis, je suis perplexe. Mais Jacques me donne des précisions sur la personne qui aurait jeté le sort et sur le moment où ça se serait passé. Et ça réveille en moi quelque chose. Je me repasse le film de ces dernières années, je percute. Cette possibilité devient envisageable. Et je vois très bien, finalement, qui aurait pu faire cela? D'ailleurs, spéciale dédicace, très chère, si tu écoutes ce podcast, je t'ai vu. Alors, les sceptiques, les rationalistes vont bondir. Enfin, les rationalistes sont plus là depuis bien longtemps, mais voilà, il est possible que vous n'ayez pas envisagé la possibilité de la magie ou de la sorcellerie, ce qui était mon cas avant de venir au Pérou. Hein. Dérives sectaires, emprises, gourous, influences, bref, la panoplie de poncifs creux. D'abord, je crois que, pour me positionner par rapport à ça, ma sensibilité me permet d'être ouvert à toute possibilité. Ça, c'est la base. Ouvert et aussi en contact avec mon ressenti, mon intuition et aussi la raison. La raison, oui, qui guide mes choix de pensée en fonction de toutes les informations que je reçois, je dis bien toutes, qu'elles viennent de partout, de tous les sens. Comme souvent, la profondeur, la justesse et la réalité de ce que l'on vit vraiment ne peuvent être transmises avec des mots et surtout à ceux dont l'esprit est plein de certitudes scientistes. Donc je pense que c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens sur les mondes spirituels, la magie, la sorcellerie, etc. Même si c'est vrai que le doute peut être légitime, moi-même, hein, franchement, c'est quelque chose dont je me sentais pas vraiment familier avant d'arriver ici à Tarapoto. Je pense même que ces gens, ces scientistes rationalistes, seraient capables de m'expliquer ce que je ressens et pourquoi je le ressens, tellement ils sont enfermés dans leur paradigme de pensée scientifique, effrayés par l'invisible. Ils ont peur de ce qu'ils ressentent, ils ont besoin d'un cadre, d'un mode d'emploi pour vivre. Vous l'avez compris, les rationalistes m'agacent. Il faut que j'arrête avec ça peut-être. C'est vrai que souvent j'en parle et... Je ne voudrais pas en faire une obsession, c'est pas le cas, hein, mais effectivement, bah voilà, hein, on va les laisser vivre leur vie et faire ce qu'ils veulent, et puis se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes. Bref, concernant ce que je suis venu chercher ici, on verra ce que disent l'ayahuasca et les autres plantes maîtresses dans les jours qui arrivent. La cérémonie, c'est pour après-demain. Demain, c'est le rituel de la purge, prise de plantes vomitives, une plante ou plutôt un mélange de plantes attribué à chacun d'entre nous selon ce qu'on est venu régler. C'est Jacques qui décide. Pour moi, ça sera un mélange de tabac et d'une autre plante dont j'ai oublié le nom, peut-être Moukoura, je sais plus. Et on y est. La purge, donc. C'est là que tout commence, dans la maloca, la grande hutte dans laquelle nous effectuons les rituels, assis en cercle avec notre pot de 2 litres, un seau aussi pour vomir, et puis chacun à notre tour, nous allons voir le maestro qui nous donne à boire notre mélange de plantes. De retour à notre place, nous attendons. Pas trop longtemps, mais nous attendons que celle-ci fasse effet. Et puis, il faut alors boire beaucoup, à grande gorgée, 5 litres d'eau en une heure à peu près. On boit de l'eau pour entraîner le processus vomitif. Et donc là, je vous laisse imaginer, c'est un joyeux concert de tout. Vous avez saisi l'idée. Voilà, écoutez, c'est très sympathique. Non, franchement, c'est pas si désagréable que ça. Je pensais que ça serait pire. Il est 19h, temps de rentrer, je rentre à l'hôtel. Les pensées passent, mais ne s'arrêtent pas. Oui, parce que je suis dans un état un peu particulier. Je crois que ce mélange de plantes a pour effet de réduire les pensées. Alors, c'est pas que ça réduit les pensées, en tout cas pour moi, c'est qu'elles passent très vite, qu'on ne peut pas les retenir. J'arrivais pas à me concentrer. Et donc, j'étais dans un état un peu particulier, engendré par ces plantes. Pas agréable, mais pas désagréable non plus. Je rentre tranquillement à l'hôtel, à pied. C'est pas très loin. Il commence à pleuvoir. J'arrive dans ma chambre. Je prends une douche. Il pleut toujours. Je vais me mettre sur la terrasse, dans le hamac. Et écouter le bruit de la pluie sur les feuilles. Demain, les choses sérieuses commencent. On sera jeudi. le grand jour. Jeudi donc, nous pouvons manger léger, mais je vais jeûner, tiens. La journée passe très vite, et nous arrivons à 18h30. Là, c'est prise de Mukura, la plante préparatrice à la session d'ayahuasca. 19h, 19h30, bain de plante, plante préparatoire à la session. Alors le bain de plante, c'est simple, chacun notre tour, on se rend dans une douche. Il y a des grandes bassines d'eau dans lesquelles baigne un mélange de plantes et on s'arrose joyeusement à l'eau froide. Bon, il fait tellement chaud qu'il n'y a aucun problème. Et puis voilà, on se rhabille et on retourne chacun notre tour à notre place dans la maloca. Donc ça prend un petit moment et voilà, on se pose en attendant que chacun ait fini son bain de plantes. Et puis tranquillement, la maestra et les maestros, ils sont trois, vont nous expliquer le déroulement de la cérémonie, habillés en blanc tous. Moi je suis plutôt focus, hein. Je suis assez excité, juste comme il faut en fait. Je suis très serein et je me sens au bon endroit. C'est vraiment l'état dans lequel je me trouve. Je suis pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. Et je suis pas certain qu'à un autre moment de ma vie, c'eût été pareil. Mais là, il se trouve que je suis juste comme il faut. La sensation d'être vraiment là. Et je me sens très bien, pas d'appréhension. Les curanderos, Fabienne, Thibaut et Jaime, ont fini de nous préparer à la cérémonie. Nous allons commencer. Il fait bon. La lumière est tamisée pour l'instant. Seul le coin des chamans est faiblement éclairé. Jaime, qui dirige la séance, va nous inviter chacun, notre tour, à prendre la plante. Nous sommes une grosse vingtaine. Je suis à peu près au milieu du cercle, face au maestro et à la maestra. Il faut un peu de temps pour que chacun se lève, prenne le temps d'arriver devant Jaime et prenne le breuvage, puis retourne à sa place. J'ai donc bien le temps de voir et d'entendre les réactions de mes compagnons de cérémonie avant que mon tour arrive, puisque voilà, il y a 10-12 personnes qui, chacun leur tour, vont prendre la plante. Et donc, selon la rapidité de l'effet, j'entends déjà des petites réaction physique. C'est à mon tour. Je me dirige vers Jaime. J'absorbe le breuvage. Le goût est vraiment pas agréable. Très fort. Un peu visqueux. Amertume et puissance. Je reviens dans mon endroit. Je m'assois. Et j'attends. We're about to live for a trip. For a trip, 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 trip with my girl. I said, please, pretty, please, pretty, 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 please, come on, girl. Right off the sheet, stares at me, stares at me, stares at me with the bored look. And when it's like this, it puzzles me, it's like this, it puzzles me. Come on, I better stop looking for trouble. Do you know how we call what you are doing? Try to hide.